pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit je pense à toi. Toi tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand j'ai le cœur trop lourd, tu te ris de mon amour. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, 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 si tu étais plus galant. Johnny, 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 je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Si tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu as une vie de rechange. Mais quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin. Johnny, tu n'es pas un ange. Johnny, 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 si tu étais plus galant. Johnny, 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 je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Entre nous, qu'est-ce que ça change? L'homme saura toujours trouver la femme qui voudra l'aimer et lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elle sera vite oubliée. Oh, vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, 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 depuis que le monde est né. Johnny, 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 il faut tout vous pardonner.
Catherine Ribeiro, qui nous interprétait Johnny, tu n'es pas un ange. Bon, vous connaissez l'autre interprète plus connu de cette chanson, écrite et composée par Francis Lemarque. Et oui, mais pourquoi cette chanson pour amorcer la 334 édition des Petits Tas dans le Mou aujourd'hui? Car, selon le calendrier du Père Ubu, concocté par Alfred Jarry, nous sommes la Saint-Poivre. Mais pourquoi la Saint-Poivre? Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que selon le calendrier apostolique et romain, c'est la fête de tous les innocents aujourd'hui. C'est la Saint-Innocent, tous les innocents. Eh bien, et alors quoi? Eh bien, il y a une herbe qui s'appelle l'herbe aux saints innocents. Et c'est une forme de poivre, un poivre d'eau, de, une renouée, pour ceux qui connaissent un petit peu, qui s'y connaissent en végétaux. Cette renouée, vous pouvez la voir même à Lyon. Enfin, il suffit d'avoir un petit rebord de route humide. Et en fait, ça s'appelle renouée parce que justement, c'est comme une liane, ça se noue et ça se renoue. Donc aujourd'hui, nous sommes bien évidemment la Saint-Poivre. Et nous allons vous engager pendant une heure à racheter vos péchés, pour redevenir innocent, évidemment. Et, mais racheter ses péchés, c'est pour ce soir ou demain, les revendre au prix fort. Et donc, voici venir notre rubrique Alpha.
Arrêtez! Arrêtez!
Mais lâchez-moi!
Tenez les gars solitaires! Empêchez de crier, bon sang! Ferme ta mouille, Urien, ça n'arrange rien! Vite! Courez vers l'autre! Il est dans la salle de bain! Oh! Bon Dieu, il a tiré! Qu'est-ce qu'il a fait, ce crétin?
Et vous? Qu'est-ce que vous faites, la rapace? Vous avez tout manigancé, c'est ça?
Désarmez-les tous, hein!
Lâchez cet homme. Je prends tout sur moi. Je suis responsable de tout, charrier.
Ouais, pas du cadavre qui se trouve dans la salle de... dans la salle d'eau, Mario. Je sais déjà qu'il s'agit de votre ancien compagnon, Tellier.
C'est bien simple. Vous savez tout.
Même qu'il a réussi à exploser la lucarne avant de passer l'arme gauche.
Ça aussi, c'était prévu.
Oh, la rue des Caporniers, ça te dit quelque chose?
La baraque à Benoîton. Qu'est-ce que vous avez trafiqué avec Tellier? Vous êtes cause de sa mort.
Oui. Les pauvres ont du flair, ne vous en déplaise. Maintenant, ton sort est joué, Mario, toi et ta bande. Inutile de te débattre, j'ai du flair, mais mes agents ont du muscle. Et votre pute là-bas? Caria, tu te prends pour l'oiseau de malheur cloué à la porte? Approche! Amenez-moi aussi ce crétin de Benoîton! Tu es content de ton coup, gamin? Maintenant, tu as du sang sur les mains. Tu n'es plus un anarchiste, tête de linotte. Puis un assassin, tu m'entends?
Et vous? Qu'êtes-vous, commissaire? Vous n'avez pas tout fait pour qu'il crève, Tellier, par hasard? Pauvre type. Plus facile pour vous de penser à un homme flingué qu'un homme qui en veut à votre peau, ou pas? Tellier, il a glissé dans l'eau toute salie de votre crasse sur son corps. Son corps était ben propre quand il a claqué, ben blanc. Finir tout nu dans son sabot, dans son propre sang, mêlé à votre crasse de flic, à votre saloperie.
Ouais. Bon, tu te décloues la gonzesse, hein? Tu trembles comme l'araignée écrasée. Les choses se passent comme elles se passent, petite. À vos risques et périls. Non, tu n'es pas en train de roupiller, rien. Et il ne fait pas tout à fait nuit. Voyons un joli crépuscule rouge sang sur l'océan de ce que vous appelez vos luttes. Ah non, ne te remets pas à crier, garçon. Tu ne franchiras pas cette porte non plus, sois tranquille. Tiens, pleure. Tu as raison. Ouais, une bonne solution, pleure tant que tu peux. Sur le sort de tes voiriens de copains. Ce sont des gars au cœur sec. Tu aurais pu t'en douter.
Vous êtes responsable du bain de sang, Charrier. On le prouvera. Uria, arrête! Un peu de silence, putain.
Écloué, ta bonne amie, et ça fait mal. Bah, on ne va pas prendre racine dans ce gourbis. Nous venons de vivre une scène cruciale que j'en ai presque piqué pour vous et de votre bande dégénérée. Ouais. Le présent n'a qu'un temps, comme on disait chez moi, surtout quand on veut comme vous sur une coque de noix. Voyez-vous, votre mécanique comporte un grand nombre de dents carriées. D'ailleurs, Benoîton, on ne compte plus des dents creuses. On ouvre la porte de la trahison et claque. Au revoir, l'incisive. Ouais, on va refermer une fois pour toutes cette porte de l'énergie. Vous la voyez, la lumière du grand soir? Crépuscule, je vous dis.
Salaud. Mais lâchez-moi, vous autres. Vous voyez bien que je suis tranquille. Viens, Uria. Décolle-toi de là. Emmenez-nous. Ça schlingue ici.
Et je te tiens, Mario. Benoîton et du petit lait, de la bricole.
Tout compte fait. Je m'en vais, commissaire. Le corps est à vous, mais je ne vous cède ni Benoîton, ni la fille. Je récapitule. Tellier est mort ici, dans son bain, et je suis coupable. Mais vous n'avez rien, absolument rien à ma charge. Quel dommage. Vous ne tenez pas Mario, que non. Et que feriez-vous du pauvre Benoîton? Laissez-nous filer, Charrier. C'est de bonne guerre, vous verrez. Nous nous avons encore à mener l'ultime bataille, d'homme à homme. Vous ne me refuserez pas cela. Je vois que vous réfléchissez bien sérieusement. Votre nuque est toute raide. Allez, on se fait la malle. Venez. Benoîton, ne te prétends pas coupable, je te l'interdis. Ferme-la, suis-moi. N'est-ce pas, commissaire? Ma proposition est raisonnable.
Allez, allez.
Vraiment. Vous ne le regretterez pas. Je vous laisse encore quelques secondes. Vous avez là quatre sergents qui pourraient devenir témoins. Mais je sais que vous avez le goût du pari, Charrier. Et puis, vous représentez l'ordre. Vous avez les moyens de me mettre le grappin dessus de façon plus brillante. Hein? Ouvre la porte, Uria. Vous avez raison, commissaire. L'air de cette soirée est parfaitement agréable.
Je ne tolérerai aucun commentaire, messieurs. Allez, levez le corps. C'est pas demain que je vais trouver une nouvelle balance, m'est avis.
Ennio Morricone interprétait Ennio Morricone. Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon. Ceci pour nous amener à notre rubrique bêta. Comme chaque semaine hebdomadaire, chères auditrices et chers auditeurs, vous pouvez dès à présent décoller votre pavillon auditif de votre poste à Galène et vous orienter si vous en avez une, vers la fenêtre de chez vous, donnant sur ce ciel, mi-figue, mi-raisin, poivré, on pourrait dire d'ailleurs, de notre bonne ville de Lyon. Et il y a quelques chances de voir s'approcher des studios de Radio Canu la navette spéciale de Mr. Boss et de Miss Cosmos. Cette semaine hebdomadaire, malgré tout, avec Mr. Boss.
C'est voilà. Les fêtes, on s'en fout.
Il y a les fêtes du météorite. Et moi-même, donc Miss Cosmos. Voilà, et en fait, c'est singulier parce qu'on est venu vous parler de l'obsolescence des contes de fées. Mes pauvres enfants, frères. Il y a des choses impardonnables par chez vous, sur le météorite.
Oula.
Et par exemple, pourquoi embrasser une jeune femme endormie, Mr. Boss?
J'ai pas eu de rapport sexuel avec une princesse du météorite, Miss Cosmos. D'abord, elle n'était consciente de rien. Et puis, je suis le prince charmant, après tout. Et puis quoi d'autre? Elle dormait à la garce depuis 100 ans. Bon, moi qui lui jetais un sort, hein. J'ai traversé les ronciers pour la trouver. En plus, j'ai été serré de près par une méchante sorcière. Alors bon. La princesse m'a été reconnaissante. Je lui en suis reconnaissant. Oui.
Mr. Boss. La belle au bois dormant, ce n'est pas fait pour les enfants du météorite. Et vous ignorez ce que c'est qu'un grand garçon et un petit garçon qui se croient grands, garçon d'ici, du météorite. Ils sont tous mauvais, par nature. Ils ignorent ce que c'est que le consentement sexuel.
Ah bon? Qu'a ressenti la princesse en vrai?
Il faut que vous observiez vos actes et vos pulsions à la loupe, et non à la lentille de notre télescope. Quelles furent vos lectures de jeunesse, Mr. Boss?
Oui.
Vous rêviez d'embrasser les filles endormies?
Mais il est possible que j'ai songé que c'était bénéfique pour tout le monde. Oui. Expliquez-moi ce que c'est que le consentement, Miss Cosmos.
Ah, voilà. Les auteurs des contes de fées du météorite n'en parlent pas.
Les parents?
Pas plus. À ce qu'on a constaté ensemble, depuis la dernière semaine hebdomadaire, au moyen de notre télescope, de notre constellation des mille pénates. Enfin, en ce qui concerne les météorites, pas plus les parents. Où s'arrête la fiction? Où commence la réalité? Les enfants du météorite ne savent pas où situer le problème.
Ouais, mais que viennent faire les enfants dans notre problème sur Radio Canu? Moi, j'ai sauvé une princesse par un baiser. L'imaginaire est-il nocif? Éclairez-moi. Dans la constellation des pénates... nous ne sommes pas politiquement corrects, comme ils disent pas chez eux, la princesse. Elle n'a jamais été enceinte de moi. Et nous ne sommes pas des envahisseurs, Miss Cosmos.
Et les contes du météorite se basent sur des horreurs.
voulez-vous qu'on vous chante une comptine, chères auditrices et chers auditeurs de Radio Canette?
Oui.
La peste, le feu, la flagellation, mais le lugubre, où trouvez-vous son charme, Mr. Boss?
Alors, le quotidien du météorite.
Vous avez bien répondu. Nous allons décoder et décoller.
Ah oui.
Direction la constellation des Pénâtres. Prince charmant. Car la navette spéciale. C'est notre luge à nous. Luge qu'a donné lugubre. Oui, au moins avant cette saison. Cette saison, oui, lugubre du météorite. Hein. Oh oui, notre navette spéciale, c'est le moyen de transport des lugubres. S'il y avait bien marché. Vous avez peur là, vous avez peur là.
Je suis le prince charmant et je vais te faire un baiser. Allez, en route.
Ma belle au bois dormant, tu dormiras longtemps avant que je ne vienne. Je demande partout le grand amour, c'est où? Où est-elle ma reine? Je le demande à tous, et même à la grande ours, je le demande aux chiennes. Personne ne m'entend, tu dormiras longtemps avant que je ne vienne. Ma belle au bois dormant. Ma belle au bois dormant, tu dors depuis 100 ans, tu dors depuis des siècles. Et moi je cours toujours, et mon corps se fait lourd, et mon cœur fait des siennes. Je crois qu'il devient fou, battant les 400 coups pour des amours malsaines. Toi là-bas tu m'attends, tu dormiras longtemps avant que je ne vienne, ma belle au bois dormant. Ma belle au bois dormant, vois, j'ai des cheveux blancs, regarde, je me traîne, mon rouleau est au bout, je suis encore debout, mais je ne vis qu'à peine. Mon amour, ton château, c'est trop loin, c'est trop haut, j'en ai marre, je me couche. À mon tour maintenant d'attendre calmement ton baiser sur ma bouche, ma belle au bois dormant.
Claude Nougaro, tu dormiras longtemps. Vous voyez, c'est pas toujours facile d'endosser le rôle du prince. Oh, on vous laisse ça cogiter. On vous rappelle que vous êtes sur Radio Canu, la plus... belle.
Ça va mieux.
Des radios, c'est l'émission Les Petits Tas dans le Mou, et selon le calendrier du Père Ubu concocté par Alfred Jarry, nous sommes la Saint-Poivre. Poivre, oh, patron des indulgences. Et oui, et donc, nous vous engageons jusqu'à ce soir minuit à racheter vos péchés pour les revendre au prix fort. C'est comme les cadeaux. Rubrique Gamma. Cathédrale et bois d'épave. Situons-nous en 1793, Jean-Pierre. En décembre, plus précisément. Car nous sommes à une date anniversaire.
Ok. Je vois où tu veux en venir, oui, à cet épisode oublié de notre bonne ville de Paris. Un décret avait ordonné la destruction de Notre-Dame. Mais par un revers de l'histoire, en vérité, une indulgence accordée à l'Église, Notre-Dame fut simplement mise en vente à Limoges de n'importe quel bien immobilier.
Ou de cadeau de Noël. Le fait est qu'il ne se présenta qu'un acquéreur, le fondateur du Saint-Simonisme. Mais quel était son projet ?
Raser le bâtiment, ce que le Parlement n'avait pas eu le courage de faire.
Saint-Simon se présenta sur le lieu des enchères, muni de tous les assignats nécessaires. Notre-Dame était fixée quand même à un bon prix.
Ouais, mais comme aucun concurrent ne se présentait et que les assignats n'étaient plus cotés du tout, la cathédrale fut vendue et tout le monde était content.
Je voudrais savoir la raison pour laquelle Saint-Simon ne rasa pas finalement Notre-Dame.
Ah ouais, j'ai une hypothèse à ce sujet. Les frais d'achat avaient épuisé sa provision d'argent papier. Il ne lui en restait plus assez pour la démolition.
Et il avait l'air malin avec son projet, là.
Enfin bon.
On l'a dit donc. Mais qu'a-t-il fait de son lot, le Saint-Simon ?
Bah, dans les nefs, il entreposa au jugé 1500 barriques de pinard. Et ça dura jusqu'au Quaternidor où, comme tu le sais, le culte fut introduit dans notre bon vieux pays de France. Entre-temps, il avait été question d'installer en ces lieux un marché couvert.
Ah, bah dommage que ça ne se soit pas fait, j'imagine. Les véhicules et les charrettes circulant en désordre dans la nef centrale, tandis qu'on jurerait dans les boutiques installées dans les nefs latérales.
Les révolutions ont rarement le temps de mener leur projet jusqu'au bout. Tous les prélats firent ouf quand on institua la paix religieuse.
Notre-Dame fut rendue au culte. Jusqu'à ce que la suspecte sollicitude de Viollet-le-Duc lui inflige de nouvelles blessures, sous le prétexte d'une cure de rajeunissement.
Hein, les bâtiments religieux ne sont jamais guéris des vicissitudes de l'histoire et de l'attention des agents du patrimoine, que veux-tu, hein? Bon. Mais un marché couvert, je suis d'accord avec toi, ça aurait été chouette.
Je me demande souvent pourquoi, par exemple, le bois d'épave a moins de valeur qu'une voûte gothique.
Parce que ce bois était un arbre avant, et non une extraction humaine. Hein? Un arbre. Ça n'a rien de spécial. C'est du bois. C'est du tout venant.
Mais des hommes l'ont tronçonné, puis l'ont façonné, ton arbre. Ils l'ont scié, travaillé, raboté, tordu, poli, calfaté, goudronné.
Oh.
Bref, les hommes en ont fait un navire de ton arbre. Et un navire vaut bien une cathédrale. La nef. Un jour, on a fêté la naissance de ce navire, on l'a baptisé comme un enfant. Des hommes se sont ensuite confiés à ce navire.
Dans la cathédrale, contrairement à ce que véhicule la superstition, et les hommes sont les maîtres. Tandis qu'un bateau, il a son mot à dire. C'est quelqu'un, un navire qu'on voit. C'est comme qui dirait une personne qui pense, et qui respire, qui réactionne.
Mais l'équipage a son ordre de mission.
Ouais. Mais qui est propriétaire du destin de l'embarcation ? Qui décide qu'il va couler ou s'échouer ton bâtiment ? Si ça va par le fond, parce que c'est son métier de sombrer, un jour ou l'autre. On dira que c'est à cause de ça et de ça. On étudiera les manœuvres malheureuses. Mais lui, il savait qu'il ne flotterait pas éternellement. Et aucun violet de duc ne pourra lui rendre sa jeunesse.
Justement, pourquoi ne rend-on pas un culte aux épaves?
Ces morceaux de bois? Les marins les respectent, je veux. On en trouve même dans les chapelles tout au long de la côte. Les épaves parlent de quelque chose. Crois-tu que cet objet ne se souvient de rien? Crois-tu que cette infime partie du bâtiment n'a pas agi par le passé? Pour les hommes de la terre, un bout d'épave, c'est bête et inutile. C'est con comme un bout de bois qu'on jette au feu. Mais pour un marin et pour les familles de marins...
Ils sentent parfaitement le retour de flamme sous l'enseigne du bois d'épave. Même un morceau ridicule ne se berce pas dans un seul sens.
Une fleur, elle s'accrève dans son pot. Hors de son champ, elle n'ouvre pas un clou. Les fleurs valent quand elles sont immergées dans une province. Mais dans les cabarets des bords de mer, il y a du bois d'épave en guise d'enseigne. On y perd son regard, et en lettres de feu, comme une âme au fond, on peut voir s'y inscrire « nous autres ». Et on reste pensif, habité par une histoire particulière et profonde. C'est autre chose qu'une icône. Saint-Simon avait raison.
C'était un grand bateau descendant la Garonne, par-ci de contrebande et d'Espagnol. Les gens qui regardaient saluaient la Madone que j'avais accrochée en poupe par le col. Un jour, je m'en irai très loin en Amérique, porter des tonnes d'or aux nègres du coton. Serrer le bateau en sang et prophétique, et Bordeaux croulera sous mes vastes poteaux. Voyant sous les tropiques, un jour je reviendrai les voiles en avant. Porteur de blé nouveau, avec mes coups de trique, tout seul, mieux qu'un marin, je violerai le vent. Harnaché d'Espagnol, remontant la Garonne, je rentrerai chez nous, éclatant de lueur. écarteront.
Voyage ne forme rien du tout.
Verdes do mar. perdis do mar.
Vous venez d'entendre successivement, et oui, la première de ces deux chansons, c'était Léo Ferré, le bateau espagnol remontant la Garonne. Et là, à l'instant, bien entendu aussi, vous devez connaître, hein, Cesaria Evora et Marisa Monte, et doce morir no mar, il est doux de mourir en mer.
Bel accent.
On vous rappelle que aujourd'hui, hein, bien sûr, il s'agit de racheter vos péchés pour les vendre au prix fort en 2018, pourquoi pas. Et voici, vous êtes toujours sur les petits tas dans le mot, Radio Canu, 102.2 MHz, la plus... poivrée et belle des radios. Rubrique ultime, rubrique Baba Yaga, un rêve, pour finir.
Mon projet final est de vivre mes derniers instants orange. Je viens de rédiger l'ultime version de mon testament en lettres stylisées. Les jalousies post-mortem sont les pires. Je n'ai jamais aimé être imprécis, surtout en ce qui concerne la répartition de l'héritage. Les formalités, c'est une plaie, surtout quand la question est de vivre pleinement ces derniers instants. Je me répète pour que vous m'entendez bien, monsieur Orange. Je me demande pourtant ce que je vais faire de mes cassettes pornographiques. Dans l'autre monde, je n'aurais plus rien à faire de ce bien. J'aurais besoin de quelqu'un pour régler ce problème, qui même me suive. À un moment, ça ne s'applique plus. Bon, allez, encore un verre de Beaujolais pif. Si c'était vrai que les anges sont asexués, bof, j'aurais toujours pris mon content sur Terre.
Le principe de mort est doté de son propre libre arbitre.
Manquerait plus que ça. Déjà qu'on n'a pas choisi de jeter dans le cocon, il faudra encore s'exposer au bon plaisir des tuiles, un vernique. La mort pour moi, c'est un examen d'entrée. Toutes mes actions, toutes mes réflexions ont à présent pour vocation que de me mettre à niveau, au niveau de n'avoir plus qu'à scénariser le moment que d'autres appellent fatal, et que moi je qualifie de propice.
Si nous faisions un séjour au bord de l'eau tous les deux...
C'est pas exclu. Mais avant, il faut que je calcule le manque à gagner. Qu'est-ce que cette bagatelle va me mettre en retard sur mon étude qui concerne actuellement la clé des glutis.
La déglu quoi ?
La déglucidification du crachat en milieu basique. En outre, je n'ai pas élucidé l'influence de l'air aqueux sur la dépigmentation de la peau. Monsieur Orange, mon ami, je suis dans l'embarras concernant les dispositions adoptées au cas où je ne reviendrai pas de notre petite villégiature bucolique. Et puis... Je suis devenu sensible à la contemplation des flots réverbérants. Comprenez-vous ?
Monsieur Poivre, je vous propose une occupation tout à fait terrestre. Je ne vous embarque pas dans une aventure qui se produirait... ou risquerait de se produire une révélation soudaine.
Actuellement, même un massage d'ongles peut m'être fatal. L'autre jour, je me suis perdu dans la lecture de miettes philosophiques. Ouf, j'ai bien cru y rester. Les grands penseurs ont secoué les nappes dangereuses pour le commun des mortels passé un âge. D'un autre côté, j'ai de plus en plus de mal à dire non, c'est ce qui me perdra. Et je m'inquiète quand le ramoneur n'est pas passé à la date habituelle, non.
Je vois. Vous vous perdez dans les détails, monsieur Poivre.
Ouais. Pas de plus grande humiliation que d'avoir oublié un détail.
Vous vous perdez dans les scrupules.
Il n'y a pas de petits détails. Pas de ça. L'ombre ne revient pas sur ses pas. Souvenez-vous-en.
Bah oui, la Terre tourne, quoi. Comme elle a toujours tourné.
Avez-vous côtoyé les créatures des abysses, monsieur Orange? Je ne parle pas en termes d'archéologie. Mais voyez-vous, dans l'histoire du juif errant, je ne saurais manquer une occasion. Car jamais on ne la retrouve par la suite. Vous me suivez?
Je suis l'actualité. Et je vous retrouve sur cette question du choix de la mort. Il faut dire, non mais je rigole, que les énarques se croient éternels, tout comme les académiciens. S'ils savaient mettre fin, ne serait-ce qu'à leur carrière, on concrétiserait. Le présent ne serait plus cette espèce de fondu enchaîné qui n'offre aucune prise.
Ouais. Monsieur Orange, la mort enseigne la modestie. Les grands principes n'ont pas plus un atome d'éternité que leurs initiateurs.
En bref, vous souhaitez vivre vos derniers instants, monsieur Poivre? Cela m'intéresse. Si vous poussez plus loin votre argumentaire.
Le suicide, tant qu'il n'est pas accompli, est une idée abstraite. Pendant un temps, quand j'en parlais, on traitait ce projet de monomanie. Durant cette période, je traversais au rouge sur les passages cloutés. La brutalité, voyez-vous, ne m'a jamais fait peur.
Alors, selon vous, même une tuile masque un suicide?
Pourquoi non? Pendant un temps, les feux étaient bloqués à l'orange, en bas de chez moi. Une aubaine, monsieur Orange. Il y avait des travaux. Tout cela était bien prosaïque. Les gens sont responsabilisés quand les machines tombent en panne. L'imprévu devient prévisible, l'incident rentre dans la norme. Vous me suivez? D'ailleurs, le langage se libère quand il advient. Les gens se parlent plus volontiers quand les rouages se desserrent. Je traversais à l'orange en levant bien haut les genoux.
C'est sûr qu'au pied d'un arbre...
Au pied d'un arbre... comment connaissez-vous le contenu de mes rêves? Il m'arrive souvent de rêver que je dors. C'est ainsi que je me crois éveillé. Vous me suivez, Orange? Oui, je suis éveillé au pied d'un arbre dans mon rêve. Enfin, je rêve que je me réveille. Dès lors, j'ouvre les yeux en vrai. Les feuilles de l'arbre, bien que très hautes, me cachent le soleil.
Et après?
Je m'allonge de nouveau.
Mais ce n'est pas possible. Vous me faites marcher, monsieur Poivre. Vous ne pouvez pas vous réveiller au pied de l'arbre, puisque cette scène, vous êtes en train de la rêver.
Si je cherche à me rendormir... C'est pour réveiller mon rêve. J'entends le vent qui bruit dans les feuilles. Et cela met un obstacle à ma somnolence. Et puis, pas loin, il y a les voitures, la rue, même les cloches des vaches. Une mobylette. J'entends distinctement une mobylette. Une mobylette, ça paraît bête, monsieur Orange. Mais mes fenêtres ne sont pas bien isolées. Or, la mobylette dans mon rêve, Je l'aperçois comme une sauterelle, une sorte de sauterelle. Tout à fait. Non. Un grillon. Non, une cigale. Oui, c'est ça. Quelque chose de plus gros qu'un insecte. Un éléphant trompéziste bleu.
Ne vous endormez pas. Je vous en prie, monsieur Poivre. D'abord, pourquoi cet éléphant est-il bleu? Cette couleur n'a rien à voir avec le son qui vous perturbe dans votre repos.
Pourquoi bleu? Bonne question. Ah oui, je perçois parfaitement le carrefour. C'est un lieu d'exception où chacun se prend en charge. Depuis que les feuilles clignotent à l'orange...
Mais alors vous n'êtes plus sous l'arbre?
Ah, je ne suis plus sous l'arbre, c'est un fait. Oh, mes paupières rentrent à l'intérieur de mes yeux. Si, je suis sous ce même arbre et mon corps est très léger. Immatériel. Sortez-moi de mon rêve immédiatement, monsieur Orange. C'est un ordre. Sortez-moi de mon rêve sans délai.
De quel rêve, monsieur Poivre? Vos rêves, comme vous me les racontez, m'échappent comme de la ouate, comme quelque chose qui se délite. Voulez-vous rattraper la logique d'un de vos rêves, monsieur Poivre? Aidez-moi à vous sortir de cette impasse.
Deux rêves s'affrontent en ce moment. Mais lequel est le bon?
Le bon n'est pas un rêve. Il y a autre chose qui est en train de s'échapper de vous.
Oh, c'est des vieux principes, sans doute. Moi qui aime tant les théories, les préceptes. Oh, mes rêves sont en face de s'échevelir, Ange. Mes rêves se démaillotent.
Où est la rue, actuellement? La rue, monsieur Poivre. Où est la rue? L'entendez-vous encore? La mobilette?
La rue? La mobilette? Non, je suis serein.
Votre sérénité m'inquiète. La cathédrale n'a pas pour vocation à rentrer dans son orgue. Avez-vous conscience que vos viscères sont toujours rigides et souples à la fois?
Mes viscères? Ah. Du carton? Une gondole qui résonne à Venise, et l'arbre, l'arbre.
Eh bien, l'arbre.
Oh, il a grandi, c'est merveilleux. Il est gigantesque, tellement que les rayons du soleil parviennent jusqu'à moi. Oh, ce qu'elles sont hautes, les feuilles, elles atteignent les nuages.
Monsieur Poivre, réveillez-vous, je l'ordonne. Vos paupières se sont enfoncées dans les orbites. Vos paupières rentrent dans votre crâne. Vous êtes tout aidé. Ondulez. Tout ce qui était rigide chez vous vient de se relâcher. Raisonnez-vous encore, monsieur Poivre.
Oh, j'étais propriétaire d'une petite Fiat Panda. Oh, je me souviens. Un motocycliste était mort. Mort d'amour. D'amour pour mon pare-brise.
Monsieur Poivre, vous êtes allongé sur ce divan, mais je vous certifie que ce n'est pas un lit de mort. Rêvez-vous. Rêvez-vous encore. Monsieur Poivre, vous m'entendez? Racontez-moi un de vos rêves.
Les deux rêves ne font plus qu'un.
Mais vous rêvez encore? De quoi rêvez-vous? Parlez!
Un petit arbre, un tout petit arbre, qui fait de l'ombre sur mon oreille. Ça va arriver, toujours là, ça, vient, rêve ça vient. Un léger incident technique. Tout le monde s'est endormi dans le studio.
C'est normal, c'est...
Un arbre. Oh. Ah, tout petit arbre. Ne perdez pas patience.
C'est nous qu'allons chanter.
Réveillez-vous, réveillez-vous.
Vous vous souvenez de l'oncle Archibald? Eh ben, c'était ce qu'on voulait vous passer, et puis il veut pas. L'oncle Archibald, il a déjà trépassé, alors...
Bon. Étrange. La malédiction...
Alors il y a des voilà donc on vous a dit hein, et on vous incite encore à racheter vos péchés pour les vendre au prix fort hein, et c'est une bonne idée pour cette fin d'année si vous savez pas quoi faire de vos cadeaux de vos péchés hein, surtout eh bien voilà il faut les revendre.
Vous ne l'aurez pas.
Nous allons bientôt vous laisser, non pas avec Georges Brassens, mais avec la bande continue de Radio Canu, concoctée par un certain nombre des animateurs éclectiques de cette radio. Éclectique, mais néanmoins. Et belle. Vous retrouverez ensuite à 18h l'émission... Non pas à 18h, à 17h l'émission Intrinsèque. Ce sera une rediffusion de l'émission qui s'est passée la semaine dernière en direct à partir de 14h, si vous vous souvenez, si vous étiez à l'écoute, avec la nouvelle génération de rappeurs de l'agglomération lyonnaise, et en particulier, je crois, de Tassin la Demi-Lune, et ce qui vous amènera jusqu'à 19h, où vous retrouverez, comme chaque jour de la semaine hebdomadaire, le journal de Radio Canu. Georges Brassens est en congé, et est parti faire du ski. Et donc vous ne l'aurez pas, on voulait passer bon, l'oncle Archibald, mais tant pis pour lui. Et Archibald dit, hop, il fait mal sur les skis. Donc cela pour vous dire que nous, si tout se passe bien et qu'on n'est pas cassé à force d'être lugubre sur nos luges, eh bien on vous retrouvera la prochaine semaine hebdomadaire. Je suis perturbé avec Georges, là, il m'a perturbé Georges. Eh bien, nous serons la sainte origine. Voilà. Bon, eh bien, nous serons la sainte origine, c'est-à-dire la sainte oringue. Et alors, savez-vous ce que c'est qu'un orin? Non, parce qu'ici, on n'est pas au bord de la mer. L'orin, bon, c'est le cordage qui relie l'ancre à la bouée, qui permet de la repérer. Et donc, ce sera la patronne des secouristes. Voilà. Il y aura peut-être bien un besoin avec la reprise. Hein. Donc, on va vous mettre la bande continue. Voilà, d'ailleurs, c'est l'heure. Et on verra si Georges revient parmi nous un jour. Hein. À la prochaine semaine hebdomadaire, si tout se passe bien.
Et enfin, Ground Zero, collectif japonais, Those Were the Days.
Ouais. Mix ta mère qui se tape. Ok, ok, ouais. Les chansons noires, black et nickel.
Ah, l'enfer du vide.
Ah, c'est un truc. C'est un truc. C'est un
truc. Moi, un gros, ouais.
Au moins, une square à l'épicerie, Vito.
Tu bouges.
Chope la scare à l'épicerie Vito.
Les roues motrices, voiture de la police. Y a trop de fils nocifs et trop de fils sur les trottoirs. Trop de fils, trop de fils qui rentrent trop tard. Qui se mettent à trop boire et trop croire en n'importe quoi trop fois. Je l'ai vécu, je vois des filles dépêtues dans les rues, des violeurs en liberté, des criminels au pouvoir. J'ai criminé elles sans le vouloir, pas là pour me faire valoir. Le décor est nestard, je veux faire dans la patois. Me teste pas, je te baisse pas, je suis sec là, tu sais là dans les bronchites. Je bronche vite des films que des tronquilles. Je suis red car, marqué par la vie et les flics qui te baissent là. La nuit dans la ville, tu n'es.
Ça m'a fait trop de peine de pas vous mettre oncle Archibald, eh bien, le voilà.
Mariage d'amour, mariage.
Le voilà pas, alors maintenant c'est la piste, pas la bonne. Cette fois, j'y arriverai. Hein. Il me reste une minute officiellement, donc c'est bon.
Oh, vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes. Comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal. À vos fêtes, à vos fêtes. En courant sus un voleur qui venait de lui chiper l'heure à sa montre. Oncle Archibald, coquin de sort, fit de sa majesté la mort. La rencontre, la rencontre. Telle une femme de petite vertu, elle arpentait le trottoir du cimetière. Aguichant les hommes en toussant un peu plus haut qu'il n'est décent. Sensuaire, sensuaire. Oncle Archibald, un tomboyeur, lui dit va t'en faire pendre ailleurs ton squelette. Filles les femelles, les charnées, vivent les belles, un tantinet, rondelettes, rondelettes. Leur montant sur ses grands chevaux, la mort brandit la longue faux d'agronome. Qu'elle serrait dans son linceul et faucha d'un seul, le bonhomme, le bonhomme. Comme il n'avait pas l'air content, elle lui dit, ça fait longtemps que je t'aime. Et notre hymen à tous les deux était prévu depuis le jour de ton baptême. Si tu te couches dans mes bras, alors la vie te semblera plus facile. Tu y seras hors de portée des chiens, des loups, des hommes et des imbéciles, imbéciles. Nul n'y contestera tes droits, tu pourras crier vive le roi sans intrigue. Si l'envie te prend de changer, tu pourras crier sans danger vive la ligue, vive la ligue. Ton temps de dupe est révolu, personne ne se paiera plus sur ta bête. Les plaît-ils maîtres auront plus court, plus jamais tu n'auras à court. Bella tête, bella tête. Et mon oncle emboîta le pas de la belle qui ne semblait pas si féroce. Et les voilà bras dessus, les voilà partis je ne sais où, faire leur noce, faire leur noce. Oh, vous les arracheurs de dents, tous les cafards, les charlatans, les prophètes. Comptez plus sur oncle Archibald pour payer les violons du bal à vos fêtes, à vos fêtes.
Georges Brassens, oncle
Archibald.
Archibald. Et voilà, et bien cette fois, c'est vraiment la bande continue qu'on vous met jusqu'à 17h.